vendredi, ça lie l'intime à l'agréable. C'est le grand format dans la JT.
Et c'est sur l'autre radio. Voilà, le grand format, c'est chaque vendredi dans votre émission quotidienne. C'est chaque fois un portrait, une rencontre ou une balade que j'aime vous proposer. Un temps qui se suspend un peu en cette fin de semaine. Et voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais ce qui m'a inspirée aujourd'hui, c'est ce temps fort, Femme de la Terre, qui vous sera proposé très bientôt, à partir du 20 novembre. Ce sera des rencontres, des spectacles, des cinédémas. Ce sera dans Laval Aglo. Pour bien en parler, je me suis dit, rien ne vaut une rencontre. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, l'émission prend son temps, comme chaque fin de semaine. Elle se termine malgré tout avec un point culture et l'agenda des rendez-vous de la semaine. Mais tout de suite, tenez-vous prêts, c'est le grand format qui commence. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Loiron-Ruillé, à la ferme Auprès des Rousses, à la rencontre de Justine Brochard. J'aime bien évidemment les portraits du grand format et à l'occasion du temps fort Femme de la Terre, je me suis dit qu'il était intéressant de rencontrer aujourd'hui une femme agricultrice parce qu'elle est une femme, mais aussi et surtout pour le plaisir et l'intérêt de la rencontre, parce que c'est avant tout ce que je vous propose dans cette émission. Et pour terminer cette semaine, je n'ai aucun doute sur le fait qu'un tour à la ferme nous fasse le plus grand bien.
Je m'appelle Justine Brochard, j'ai 37 ans, j'ai statut d'agricultrice, du coup je me suis installée avec mon conjoint, ça fait 3 ans et demi, et lui ça fait 8 ans. Mon activité principale sur la ferme, on va dire, c'est plutôt la vente directe, du coup on fait à peu près une vente tous les mois, et puis tout ce qui est aménagement, biodiversité, ou ouverture un petit peu vers l'extérieur. Pourquoi je me suis installée ? En fait, mon conjoint, il était déjà installé, donc lui, ça va faire 9 ans. Là, on est sur le site, c'est son grand-père qui habitait ici. Donc lui, il a recréé sa ferme il y a 9 ans, en troupeau à l'étang. Moi, je l'ai rejoint, premièrement, je pense, parce que j'adhérais à ses valeurs. Du coup, il a toujours été en agriculture biologique. Ça, c'était un de ses idées de départ, et du coup je pense que je l'aurais pas suivi, c'est sûr, s'il n'était pas installé en bio. Il y a une idée aussi de famille, de pouvoir profiter de ses enfants. C'est vrai que c'est aussi, alors il y a des contraintes, mais il y a des quelques avantages, où, notamment avec la liberté de temps. Et du coup, c'était un de nos objectifs de s'occuper de nos enfants, qu'ils soient là, qu'ils soient moins en garde possible. Et après, moi, mon objectif, vraiment, c'était d'ouvrir un peu la ferme. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de liens entre l'agriculteur et le consommateur. C'est vrai que je le vois dans mes clients. Par exemple, il y en a beaucoup qui avaient un grand-père, un oncle agriculteur. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus vraiment le cas dans les nouvelles générations. Et je trouve que ce lien, il est important.
Et alors Justine, si on regarde votre parcours un peu plus en arrière, est-ce que le chemin était tout tracé pour devenir agricultrice ou est-ce que finalement les choses se sont déroulées un peu autrement ?
Alors mon parcours est un peu atypique. En fait, je suis fille d'agriculteur. J'ai fait mes études dans l'agriculture. J'ai fait un BTS en industrie agroalimentaire qui m'a pas du tout... j'ai vu aussi l'envers du décor qui correspondait pas vraiment à mes valeurs. Et ensuite, j'ai travaillé plutôt dans d'autres domaines, dans la photographie, le social. Je pensais pas vraiment un jour venir en agriculture, et ni en Mayenne d'ailleurs. J'ai pas mal voyagé, j'habitais plusieurs années à Copenhague. Un jour, je suis revenue en Mayenne. Rodolphe, mon conjoint, était déjà installé. Et puis, de fil en aiguille, on s'est mis ensemble. Je retravaillais un peu à côté. Puis, il y a eu les enfants. Et puis on s'est dit, pourquoi pas s'installer ensemble. Mon fils, il a 5 ans et ma fille, elle va avoir 1 an.
Pour revenir à votre installation sur la ferme, est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ?
Eh ben, ça a été plutôt fluide parce que du coup, mon compagnon, bah, il était déjà installé et donc du coup, il n'y a pas eu de gros changements suite à mon installation. Alors, on a repris quelques terres, principalement pour faire des prairies. Et puis, donc, il n'y a pas eu de gros changements. Donc, ça a plutôt été fluide, même si au niveau de l'installation, c'est toujours des papiers. Donc, ça s'est plutôt enchaîné.
Donc plutôt fluide, mais avec quelques défis malgré tout.
Oui, je crois que le plus gros défi de mon installation, ça a été le terrain. L'acquisition de terrain où c'est terrible. Je pensais vraiment que ce défi, un peu cette guéguerre et cette non-communication était d'un temps passé, comme je pouvais l'entendre, c'est l'histoire de mon père. Et en fait, non, c'est réellement présent. Et je trouve que c'est terrible, parce qu'en agriculture, c'est vrai que c'est un milieu où il y a très peu de communication. C'est pas évident, c'est un peu la loi du plus fort. C'est un peu fini le temps du voisinage qui s'entraide. Heureusement, on a, je trouve, cette chance d'être en bio. Et on le voit, je trouve, au niveau des mentalités, où il y a plus, je trouve, d'entraide. Et ça, c'est vraiment chouette, quoi, du coup, qu'on peut retrouver dans ce réseau. Ouais.
Donc sur la ferme, vous vous occupez principalement de la vente directe et finalement, ça s'équilibre plutôt bien.
J'aime beaucoup, du coup, rencontrer les gens, parler de l'élevage. J'aimerais bien faire visiter un petit peu plus, du coup. Je trouve que c'est toujours intéressant. Des questions, ces rapports, des gens qui avaient des fois des préjugés ou pas. Des fois, on ne pose pas de questions, ça dépend. Et ça, c'est chouette. Et une autre mission aussi qui me tient vraiment à cœur, je pense, c'est la biodiversité. Je fais partie d'une association paysan de nature de Mayenne Nature Environnement. L'idée, c'est de concilier élevage et production et biodiversité. Parce que c'est pas parce qu'on produit qu'on est obligé de tout casser ou de tout abîmer, quoi. Donc, ça se concrétise par tous les ans, on plante des haies, alors sauf l'année dernière et cette année, parce que du coup c'est aussi de l'entretien. Là, il n'y a pas longtemps, il y a la semaine dernière, on a fait une mare, du coup, des élèves d'un lycée qui sont venus avec leur professeur. Voilà, elle est en train de se remplir.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vous qui portez ces projets sur la ferme. Sans vous, ils n'existeraient sans doute pas.
Non, pas du tout. Lui, il est vraiment axé sur l'élevage. Ses vaches, un passionné de ses vaches. Du coup, présenter son travail, le public, c'est pas du tout son truc, quoi. Et moi, j'aime bien, du coup, j'ai besoin de rencontrer des gens. Et j'aimerais bien, dans les années à venir, avoir. Je suis en train de voir ça, mais de me former, de peut-être travailler sur des projets avec des enfants en lien avec la nature aussi, parce que. Là, il y a des rapports qui sont tombés dernièrement où les enfants, ils passent très très peu de temps à l'extérieur et c'est terrible. Non seulement parce que ça fait du bien. Là, on l'a vu aussi, il y a pas longtemps, j'ai regardé des documentaires où les enfants qui sont en ferme, au contact des animaux, enfin de la terre. Pour moi, je l'ai été quand j'étais jeune et je trouve que c'est une richesse. C'est vraiment important. Donc voilà, du coup j'ai quelques idées pour la suite à ce niveau-là, quoi. Donc on fait, je pense, tous les deux des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont plutôt complémentaires. Voilà. Après, je trouve le plus difficile, c'est de concilier toujours la vie professionnelle et personnelle, où il y a toujours comme par exemple aujourd'hui. C'est vrai que travailler avec des animaux, il y a souvent des imprévus. Et on s'ennuie jamais, ou alors c'est jamais fini. Alors, on a quand même la chance d'avoir mes beaux-parents qui habitent à quelques kilomètres. Du coup, quand eux partent en vacances, mon compagnon fait le boulot chez eux et vice-versa. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est mon conjoint qui fait majoritairement le travail sur l'élevage. Je connais plusieurs femmes qui sont installées en élevage de chèvres, en maraîchage, mais en élevage bovin, j'en connais peu. Après, honnêtement, je ne suis pas sûre que je me serais installée toute seule. Je suis née en ferme, mais je crois que quand j'étais plus jeune, je voulais être agricultrice quand j'étais petite. Mais j'ai vu mon papa trop travailler, galérer, je pense. Et ça m'avait vraiment écœurée de la ferme. Donc je pense pas que je me serais installée toute seule. Après, j'en suis sûre, quoi. Des femmes peuvent le faire. Et ça, il n'y a aucun souci. Après, je trouve que dans le métier de l'élevage, ce qui prime essentiellement, c'est la passion. Il faut être passionné parce que c'est sûr que le rapport à salaire à l'heure, faut pas le regarder, quoi. Du coup, c'est aussi beaucoup de pression au niveau de l'élevage, au niveau économique aussi, au niveau de la météo. On sait jamais d'une année sur l'autre. Alors là, cette année, c'est parfait. Nous, on était contents, il y a eu de la pluie, on préfère la pluie que la canicule. On n'a plus trop plu là, donc on peut profiter encore des pâtures, donc c'est très bien. Aujourd'hui, c'est plus tranché. Je pense comme dans beaucoup de domaines dans la société, il y a de l'écart qui se creuse entre les grosses exploitations qui deviennent de plus en plus grosses et les petites. Aujourd'hui, il y a aussi, c'est chouette, en vente directe, pas, là, je parle pas que en viande, quoi, en fromage, en maraîchage, il y a beaucoup plus d'offres qu'avant, beaucoup de personnes qui veulent s'installer, et c'est chouette aussi, et c'est marrant parce que paradoxalement, il y a des fermes aussi de plus en plus grosses et de plus en plus industrielles. Mais par contre, si, il y a un truc qui a changé, parce que moi j'ai fait des études agricoles, et là c'est vrai que depuis l'année dernière, on a reçu quelques classes. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment des liens en fait entre l'agronomie, la philosophie, et des découvertes d'entreprises. Et ça, c'est vraiment chouette. Il y a vraiment plus d'ouverture parce que souvent, quand on s'installe, c'est pas le cas de mon compagnon. Et lui, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours admiré chez lui, c'est que ses parents sont installés pas très loin, mais il a choisi de travailler sur un autre système. Du coup, eux sont conventionnels, lui en bio. Et c'est ça qu'on voit peu. Souvent, c'est vrai qu'on voit des jeunes qui sortent de l'école et direct après qui s'installent et qui reprennent exactement le même modèle familial. Souvent, c'est un peu comme les idées politiques, ça se transmet. C'est pas toujours évident, je pense, après, de prendre du recul. Et ça, c'est vrai que j'ai pu le vérifier au SPI, du coup, quand ma formation à la Chambre d'agriculture. On était un groupe donc principalement bio et l'autre groupe en conventionnel sur la partie plutôt élevage. Donc j'avais un pied dans les deux. Et c'est vrai que toutes les personnes avec qui j'étais en bio avaient eu un autre parcours avant, quoi. Un autre métier, t'es parti à l'étranger, y avait une coupure. Et je trouve que cette coupure, elle est intéressante parce que elle permet aussi de prendre du recul sur ses pratiques, de voir d'autres systèmes, d'autres modèles, voir qu'il y a autre chose qui existe. Ça permet au moins de s'interroger, quoi.
C'est intéressant quand vous dites que Rodolphe, votre compagnon, a choisi un modèle agricole différent de celui de ses parents et finalement, dans la famille, ce choix n'a pas été un problème.
Non, ça c'est chouette. Ils l'ont. Alors, son papa est quand même pas pour le bio. C'est un peu la génération du. Le bio, ça fait peur. La peur d'être envahi par les A26, du rendement. C'est vrai que c'est des pratiques qui sont vraiment, comme je disais, différentes, quoi. On travaille la terre différemment. Des fois, c'est vrai qu'en bio, il y a aussi des expérimentations. Alors, il n'a pas non plus une très bonne opinion, parce qu'au début, je pense, quand Rodolphe a commencé, il a fait des erreurs, il a fait des essais. Des fois, il y a des choses qui marchent, des fois, ça ne marche pas. Mais c'est chouette, ouais, ils s'entraident quand même un peu, ils ont un peu de matériel en commun. C'est vrai qu'on l'a vu aussi quand je me suis installée, on a repris les terres, on a repris quelques terres pas très loin d'ici. Elles ont été cultivées depuis peut-être une quinzaine d'années. Et du coup, on a vraiment pu voir la différence au début quand on a replanté. On voyait que voilà, il n'y avait plus grand-chose. On voyait que c'était vraiment pauvre. Et petit à petit, pareil, on a remis beaucoup d'herbes, des légumineuses.
Et donc en nourrissant la terre, vous avez réussi, vous la voyez petit à petit reprendre un peu de la santé, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Ouais, et puis reprendre vie, parce que du coup, une bonne terre saine, on ne s'en rend pas compte, mais dans de la terre, c'est des milliards et des milliards d'organismes, de vivants, quoi. Du coup, et c'est vrai qu'ils sont importants et qu'il faut aussi en agriculture... Comme dans la vie en général, en ce moment, je vois nos politiciens, ce que je trouve dommage, c'est aussi qu'on ne pense pas à long terme. Tout est un peu vu à court terme. Et de se dire, bah, on a nos enfants, enfin, d'autres générations après. Et l'idée, en faisant aussi ce métier, c'est de leur laisser des terres qui seront... qui sont nourries, dont on a pris soin, et qui pourront par la suite nous nourrir encore. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, comme les haies, tout ce qu'on supprime. Quand on voit qu'il n'y a pas longtemps, on parle des hérissons qui sont en voie de disparition. Alors aujourd'hui, des fois, c'est un petit peu marginal quand on pense aux animaux sauvages. Mais parce que, je sais pas, on étudie pas ça à l'école, hein, ce qui nous entoure, les paysages, les arbres, les insectes, les animaux... qui sont essentiels du coup et c'est vrai que des fois ça, on a un peu vu que ça peut être vite marginalisé mais c'est important c'est des chaînes qui sont là et qui
Le milieu agricole reste un milieu plutôt masculin. Est-ce que vous ressentez des préjugés envers les femmes dans l'agriculture?
Non, au niveau, je sais pas, hein, des réparations des tracteurs, des choses comme ça, souvent c'est Rodolphe qui gère. Donc je me dis que oui, il y a certaines choses, je pense que j'ai pu le voir des fois sur d'autres choses. Je prends l'exemple il n'y a pas longtemps. J'ai essayé une débroussailleuse un peu plus grosse que d'habitude et on m'a dit, mais désolée de vous dire ça, mais c'est pas pour les femmes, du coup... Et donc je l'ai quand même essayé, ça... J'ai trouvé ça drôle parce que c'était de la part d'une personne assez jeune, quoi. Enfin, limite un peu plus jeune que moi, du coup...
Le grand format continue dans quelques instants. Le grand format continue dans quelques instants avec Justine Brochard, mais avant, on va faire une petite pause et on va écouter Andrea Laszlo de Simone, Imincita.
Una nuova immensità.
On est de retour dans l'agité du local, c'est le grand format et on est en compagnie de Justine Brochard, agricultrice à la ferme auprès des Rousses à Loiron-Ruillé. Alors Justine, ce qu'on peut dire, c'est que le métier d'agriculteur a évolué dans le temps, notamment pour les femmes qui souvent, pour les générations précédentes, participaient au travail de la ferme sans avoir le statut d'agricultrice. Vous avez déjà pu échanger avec des femmes qui auraient connu cette époque où ça se passait autrement ?
Non, parce que c'est vrai que celle que je connaissais, c'était mes grand-mères, quoi, du coup. Mais je crois qu'ils avaient un mode de vie tellement économe que... ils faisaient très très peu de courses. C'était un peu la génération où ils dépensaient enfin, presque rien, quoi, vraiment le minimum. Donc, non.
Est-ce qu'elles vous ont parlé de ce qu'elles faisaient, de comment elles vivaient ce travail ?
Non, c'est vrai que autant j'ai beaucoup échangé avec avec mon grand-père, mais c'est vrai que mes deux grand-mères, non, c'était une vie dure, quoi. Ça, c'est clair que ça, c'est vraiment ce que je retiendrai. Elles en parlaient pas, que ce soit les enfants, l'enfance, je pense que tout était dur, quoi, du coup. Les conditions de vie, le travail. Et pareil, la grand-mère de mon compagnon qui habitait ici, pareil, elle est décédée, je ne l'ai jamais connue.
Vous m'avez dit tout à l'heure que ce métier, c'est avant tout une passion. Qu'est-ce que vous ressentez de la considération pour le métier que vous faites aujourd'hui ?
Je pense que des fois, on attend beaucoup, peut-être des agriculteurs, du coup... notamment sur le soin des terres, du vivant. Ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas prendre soin de son travail ou de ce qu'on fait si on ne prend pas soin de nous-mêmes, quoi. Du coup, et ça, je trouve que c'est important. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas vraiment considérés à leur juste titre, parce que c'est vrai que c'est plus qu'un métier, être agriculteur, c'est une vie. Du coup, on vit sur la ferme du matin jusqu'au soir, jusqu'aux nuit.
Alors que c'est un métier qui nourrit quand même l'ensemble de la population.
Aujourd'hui, quand on voit la part de budget dans l'alimentation, elle est de plus en plus faible. Alors, ça fait déjà quelques mois, mais on parlait même plus du bio, on parlait de manger français qui était trop cher. Et je trouvais ça triste. Parce que du coup, on a besoin de manger, 3 fois par jour. C'est aussi des actes politiques. C'est aussi important pour notre santé. Et l'argent qu'on met dans nos aliments, c'est plus que des aliments, c'est aussi tout ce qu'il y a derrière. C'est comment ils sont produits, comment derrière on prend soin de nos animaux, de la terre, de nos champs, de... C'est vrai que moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais quand une femme s'installe, au début, on me disait, mais pourquoi tu montrais pas un poulailler, du coup, un élevage, un bâtiment industriel ? Parce que ça, justement, je pense que c'est plus facile pour les femmes. Du coup, c'est censé, entre guillemets, parce que entre la théorie et la pratique, il y a souvent un écart, mais plusieurs fois, on m'a dit ça. Et j'ai répondu que non, je préférais pas m'installer du tout, que d'avoir un poulailler ou un élevage industriel pour avoir un revenu, quoi. Mais souvent, c'est une raison pour apporter un plus, quoi. Sachant que, par exemple, s'installer aujourd'hui en élevage allaitant, c'est très compliqué. Et les banques, limite, n'acceptent même plus, sauf avec un projet à côté, quoi.
Si un de vos enfants avait envie plus grand de devenir agriculteur, qu'est-ce que vous ressentiriez par rapport à ça ?
En fait, on essaye d'être le plus neutre possible, quoi. Si, forcément, il est imprégné, parce que je vois mon fils, il adore, il passerait sa vie dehors, quoi. Enfin, la terre, être sale, par tous les temps, les tracteurs, les animaux, enfin, c'est... Il est habitué. Et moi, c'est vrai que j'ai aussi grandi dedans, et je pense que c'est une vie un petit peu différente... que peuvent connaître d'autres personnes, du coup, parce que c'est du... Pareil, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est du H24. Lui, il est... mon fils, à 7h du matin, il peut être 8h dehors. Enfin, voilà, avec les vaches, il n'y a pas de souci. Mais non, on essaye de... Pareil, de l'ouvrir. Je me dis, il fera ce qu'il veut, quoi. On essaiera de lui faire aussi connaître autre chose, mais j'espère, et ça, je mets vraiment mon point d'honneur avec mon conjoint, parce qu'on n'est pas d'attente sur lui. parce qu'en plus, voilà, c'est un garçon et que. Et souvent, on me dit, ah, bah alors, il sera un futur agriculteur. Je dis, bah non, pas forcément. On peut aimer la ferme, mais pas forcément. Parce que oui, c'est un métier compliqué, mais c'est un beau métier aussi quand on l'aime. Et...
Aujourd'hui, les questions de l'accord du Mercosur, qui serait une zone de libre-échange qui regroupe plusieurs pays donc de l'Amérique du Sud. Il est composé notamment de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay avec donc l'Europe. C'est un traité très critiqué. Est-ce que vous avez une position, vous, là-dessus ?
Surtout de se dire que, par exemple, en élevage allaitant, on a tout ce qu'il faut en France. Là, en ce moment, on voit tous les élevages qui sont en train de disparaître. Mais pour à côté, aller acheter de la viande... De la viande bovine élevée, là pour le coup au soja, qui participe à la déforestation, avec des plein de molécules, enfin voilà, nocives. Il y a un réel déni, je trouve, au niveau de l'environnement, de tout ce qu'on peut voir. C'est vrai que des fois, ce qui est un petit peu frustrant, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'on va vraiment dans le sens opposé de ce qu'il faudrait aller, quand on voit un peu toutes les alertes, tous les voyants qui sont un petit peu rouges. Et en même temps, cette machine économique qui est tellement énorme, puissante, que du coup, qui est inarrêtable, quoi. Du coup, et ça, je pense que il y a aussi un rôle des consommateurs aussi dessus. On parle beaucoup des agriculteurs, mais après, les agriculteurs produisent aussi ce que les consommateurs veulent. Enfin. Si les gens mangent plus de bio, il y aura plus de bio de produits. C'est voilà, c'est le marché de l'offre et la demande. Même si voilà, notre image elle n'est pas vraiment valorisée. C'est vrai que nous en bio, on n'a pas cette, on n'a pas de lobby du coup, parce que en vache allaitante, on rapporte peu, y a pas de bâtiments, peu d'énergie, beaucoup de prairies. Donc tout ce qui est semences, enfin on n'est pas, voilà, on n'est pas des bons. On rapporte pas vraiment d'argent beaucoup aux industriels, ça c'est sûr. Et oui, le seul truc aussi que je trouve vraiment dommage, à titre personnel, c'est qu'on, enfin, et comme beaucoup de sujets dans la société, le bio et le conventionnel sont vraiment mis, enfin, vraiment à l'opposé. Et c'est dommage encore une fois qu'il n'y ait pas ces discussions, parce que. Comme dans tous les débats, je trouve aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on voit très peu la nuance, quoi. Des fois, c'est un peu tout blanc ou tout noir, toujours un petit peu dans l'extrême. Mais je trouve que c'est bien de comprendre aussi les autres, du moins, même si on n'est pas d'accord avec les pratiques, ou je pense que l'échange reste important.
Puis il y avait aussi à une époque des subventions pour la mécanisation, pour que ces exploitations puissent grossir. Le soutien aux agriculteurs allait en fait dans ce sens-là.
Oui. De toute façon, c'est vrai qu'à l'époque, mon beau-père me disait, ils étaient payés pour arracher des arbres, enfin, pour casser des prairies, ouais. Du coup, il y a quand même un passé, une histoire qui est là.
Il est temps maintenant de quitter la ferme. Merci à Justine Brochard de m'avoir accueillie chez elle, auprès des Rousses, à Loiron-Ruillé. Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Et alors, ça y est, on arrive à la fin de cette émission et donc c'est le moment de l'agenda culturel qui fait le focus sur deux salles et on commence à Château-Gontier avec la salle Le Carré. On écoute Maëlle Grenier nous parler de ce qui nous attend.
Vendredi 22 novembre, nous nous retrouvons au Théâtre des Ursulines avec Mascarade, qui est une chorégraphie, une pièce chorégraphique de Cédric Cherdel. autour de la figure du carnaval. Et comme souvent, en tout cas dans les créations chorégraphiques, il s'agit du rapport social, du rapport des, voilà, des individus, notamment dans leur isolement, leur unité, et leur rapport au groupe, comment on fait société. Et là, Cédric Chardel a pris la question du carnaval dans toutes ses acceptions, c'est-à-dire la dimension débridée, la dimension contre-pouvoir, la dimension, émancipatoire, sans limite, pour triturer la question sociale, c'est-à-dire du rapport de l'individu au groupe. Et donc ça donne des écritures totalement étonnantes. Il navigue entre le corps et la voix, là aussi, ils se permettent d'aller un peu plus vers la voix, alors qu'il s'agit de 5 danseurs, dont ce n'est pas particulièrement la discipline de prédilection. Mais Mascarade est un moment vraiment très drôle. C'est un spectacle drôle, presque sans parole, puisqu'il s'agit juste de sons qui sont évoqués, enfin qui sont formulés, il n'y a pas de langage. Mais c'est un langage parfois surréaliste, un langage en tout cas très, très libre, pour parler de l'exclusion, pour parler du groupe, pour parler de la présence dans une société. C'est totalement étonnant. Et j'ai été séduit en tout cas par le ton, par l'ironie, par le côté acidulé de cette création, très légère, très pop. Il y a quelque chose de très pop dans cette création. Et là aussi, je pense que ça parlera aux jeunes. Et il se trouve que les costumes ont été créés par Micha Derrider, qui est une artiste plastique, une artiste des arts visuels, qui est aussi installée en région Pays de la Loire. Donc là, on se retrouve à la croisée des arts visuels et de l'art vivant. Donc c'est un chouette moment à partager.
Et du coup, on profite justement que ce soit Micha Derrider qui ait créé les costumes du spectacle pour proposer un atelier avec elle. Donc, c'est une artiste qui travaille beaucoup autour du textile. Et donc là, elle propose un atelier autour du crochet. Donc, s'initier au crochet et fabriquer des masques à partir de la technique du crochet. Donc ça, c'est un rendez-vous tout public à partir de 15 ans. Et ce sera le lendemain du spectacle.
Ensuite, on continue cet agenda culturel au Théâtre de Laval. Vous découvrirez de la musique du monde avec Aïdouti Orchestra le samedi 23 novembre à 20h30. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire ? Eh bien, ça sera une grande soirée sous le signe du brassage musical sans frontières, puisque depuis 20 ans, la fanfare de Brigand au cœur du Aïdouti Orchestra redistribue des joyaux venus des Balkans et d'Orient, qu'ils soient grecs, turcs, espagnols, bulgares, français, roms ou gadjo, bouillonnent dans leur veine une même sève musicale et généreuse, cuivre flamboyant, percussions indomptables, chants virtuoses et danse sensuelle. Aïdouti Orchestra est la fanfare favorite d'Ibrahim Malouf, avec qui ils ont parcouru les routes. Voilà, l'agité du local s'arrête ici. Merci à Justine Brochard de m'avoir accueilli dans sa ferme auprès des Rousses à Loiron-Ruyer. Votre soirée commence ce soir donc à 19h avec Dance Hall Social Club pour écouter ensemble des sucreries musicales du passé. Puis si on jette un petit coup d'œil quand même sur ce qui vous attend ce week-end, on a encore quelques minutes. Eh bien, samedi à 13h, ça sera Rock Dreams qui fait un focus ce week-end sur le groupe The Amboy Dukes. Ce sera suivi ensuite 18h rock à la Casbah. Et puis on va regarder un peu ce qui nous attend dimanche, puisque à 11h, c'est l'équipe de Benoît Sport Épique qui nous parle sport de manière assez matinale, puisque ce sera à 11h. À 19h, le week-end se terminera avec l'émission Comment c'est loin. Alors, Comment c'est loin, c'est l'émission nostalgie qui met en lumière le rap de toute époque. On la retrouve tous les 2 mois avec Amazir Amaden Guest, Maël Fouché et Pablo Bourdoiseau. Et puis ça se termine toujours bien les week-ends sur l'autre radio, puisque à 21h commence l'émission Jazz Attitude. Moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission de l'Agité du local. D'ici là, profitez du week-end, reposez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous entourent. En tout cas, s'il vous plaît, vous me connaissez, je vous le demande chaque jour, faites-le bien.
C'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.